Voilà, bonjour à tous et à tous. Alors c'est bientôt la rentrée. Peut-être vous y pensez, peut-être vous y pensez pas. Peut-être vous avez vos enfants déjà qui commencent, soit qui se réjouissent parce qu'ils vont retrouver leurs amis, soit c'est pas le cas. En tout cas, peut-être vous venez juste de terminer vos vacances et vous êtes ici. Nous, on a passé une semaine dans un camp famille chrétien. Et je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, lorsque on est passé une semaine riche les uns avec les autres, on a connu des nouveaux frères et sœurs. Et puis vient le moment de, bon, nous on est à la retraite, mais pour certains vient le moment de redescendre de la montagne, de retrouver leur travail, de retrouver peut-être des personnes qui ne sont pas faciles, un environnement non chrétien. Et puis vous n'êtes peut-être pas particulièrement enthousiaste. Vous auriez bien aimé rester plus longtemps que monter sur la montagne, à l'écart. Là, on était à l'écart, effectivement, du monde. On était vraiment entre nous, on s'est fortifié. Alors, je vais poursuivre mon message, mon parcours de l'évangile de Marc. Et justement, là où je me suis arrêté, c'était les disciples, trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean, étaient sur la montagne, où ils ont vu Jésus, comme ils ne l'ont jamais vu, transfiguré dans toute sa gloire, comme il sera quand il va revenir. Et certainement qu'ils avaient bien envie de rester là-haut, ils étaient tellement bien avec le Seigneur, mais est venu le moment où ils sont descendus de la montagne, et qu'est-ce qu'ils vont retrouver en bas de la montagne? Et bien, ils vont retrouver l'agitation, même des gémissements, des souffrances. Et je vous invite donc à reprendre là où on s'est arrêté, en Marc chapitre 9. Et je ferai donc en deux parties. Je ferai une première partie, je m'arrêterai, et puis ensuite, je reprendrai la suite un peu plus tard. Donc, Marc chapitre 9, je vais prier. Seigneur, merci encore pour être celui qui nous a tant aimés, celui qui nous donne, qui est notre joie, Seigneur, celui qui est venu habiter dans ce monde, Seigneur, et qui nous rend capables nous aussi d'y être. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans ce monde. Seigneur, je te prie de nous aider à briller, Seigneur, comme tes disciples. Et vraiment que nous prions de toi, Seigneur, de ta gloire. Merci de nous ouvrir le cœur et l'intelligence à ta parole. Ce sont des textes qui sont pas toujours évidents, mais Seigneur, on veut vraiment les recevoir et dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Je mets tout souci à tes pieds, à l'extérieur de ce bâtiment. Et surtout au pied de ta croix. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Marc 9, donc, à partir du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut très surprise et l'on accourait pour le saluer. Il leur demanda : sur quoi discutez-vous avec eux ? Et un homme de la foule lui répondit : Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, en qui se trouve un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'en ont pas été capables. Jésus leur répondit, race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit le fit entrer en convulsion, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?»« Depuis son enfance, » répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité !» Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus !» Et il sortit en poussant des cris avec une violente convulsion. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs le disaient mort. Mais Jésus le saisit par la main et le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut rentré dans la maison, ses disciples l'interrogèrent en privé. « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. » On va s'arrêter là pour le moment. Que Dieu bénisse sa parole. Alors quel contraste avec le moment où les disciples, les trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean, étaient sur la montagne avec Jésus. Et puis voilà, ils ont rejoint la foule en bas de la montagne. Et la foule, il nous a dit la foule, les disciples et les scribes sont dans une grande discussion, sont dans un grand débat, une grande discussion. Et Jésus arrive à la surprise générale. Tout le monde est surpris de le voir, comme s'il l'attendait. Hein. Et Jésus leur demande de quoi ils discutaient. Et apparemment, c'était une discussion animée. Hein. Et les gens ont accouru quand ils ont vu Jésus arriver. Alors, est-ce qu'ils attendaient qu'il vienne trancher, lui, une question dont ils étaient en train de traiter? Certainement. Et puis voilà que surgit de la foule un père qui est dans la détresse, et qui lui dit que son enfant est possédé par un démon. Un démon qui le projette au sol, et l'enfant défaille par de violentes convulsions en écumant. Alors le père explique à Jésus qu'il s'est pourtant adressé à ses disciples, mais qui n'ont pas été capables de chasser le démon. Ça n'a pas fonctionné. Alors, il y a les scribes au milieu. Et on imagine les scribes, ils devaient jubiler. Peut-être que l'agitation, c'était que les scribes faisaient le reproche aux disciples, mais vous n'avez même pas été capables de chasser ce démon en l'absence de votre maître, puisqu'il était sur la montagne. Alors, où est le problème? Ils n'ont pas réussi. Où est le problème? Le problème, ce n'est pas un manque de volonté. Le père voulait que son enfant soit délivré. Les disciples se sont rendus disponibles pour tenter de chasser le démon. Ce n'était pas un problème de disponibilité, ce n'était pas non plus un manque de motivation. Où est le problème? Eh bien, Jésus, sa réponse va être catégorique. Il commence sa réponse en disant « race incrédule ». Le problème, c'est clairement dit ici, Jésus le dit, c'est un manque de foi. Manque de foi. Et il poursuit « jusque à quand serai-je avec vous ?» Alors, il s'adresse à tous là, à ses disciples, au Père aussi certainement, parce que Jésus ne sera pas toujours physiquement avec eux. Et viendra un temps où Jésus leur sera enlevé, où Jésus leur sera enlevé physiquement, et les disciples, qu'est-ce qu'ils auront à faire? Il faudra qu'ils poursuivent le travail sans lui. Et si nous sommes là, c'est que le travail a continué. Et c'est à nous de continuer le travail. Alors voilà, des incrédules. Que fait Jésus face à ces incrédules? Alors effectivement, il arrive quand même à la fin de son ministère terrestre. Hein. Jusque-là, quand serai-je avec vous? Mais Jésus va quand même accueillir les incrédules. Il va les accueillir. Il accueille les incrédules. Le titre de mon message, c'est « La foi en Jésus accueille l'autre ». La foi en Jésus accueille l'autre. Et mon premier point, c'est que la foi en Jésus se manifeste par l'accueil des incrédules. La foi en Jésus se manifeste par l'accueil des incrédules. Alors, qui est incrédule ici? Eh bien, est-ce que ce sont les disciples? Est-ce que c'est le Père? Eh bien, les deux. Clairement, les deux, on va le voir. Un Père, on a là un Père qui est torturé par des années de souffrance de voir son fils ainsi malmené, torturé par ce démon. Et il est dans la souffrance, il essaie tout ce qu'il peut pour guérir son fils. Il n'est pas venu pour lui. Son problème, c'est pas un manque de ferveur religieuse. Il est religieux, ce père. Il cherche par tous les moyens à délivrer son fils. C'est pas non plus un manque de volonté. Mais ce père a un problème sur lequel Jésus va mettre le doigt. Et il va pas dire, on va voir comment il va s'y prendre, parce que c'est très riche d'instructions pour nous quand on est face à quelqu'un qui ne croit pas. Son problème, bien sûr, c'est le manque de foi. Alors Jésus va s'adresser au Père. Les disciples, ça sera pour plus tard. Et Jésus, il va poser des questions. Alors il est Dieu, il est Dieu le Fils. Il sait déjà ce que le Père va répondre. Il va poser des questions. Pourquoi? Pour que le Père prenne conscience de son problème. Pour faire dire au Père. Pour lui faire prendre conscience de son problème. Alors il va lui demander depuis combien de temps son fils est tourmenté par le démon. Ce à quoi le Père répond depuis son enfance. Jésus le savait. Mais plutôt que d'amener la solution sur un plateau au Père, Jésus veut travailler le Père en quelque sorte, par ses questions. Et il va l'amener là où il veut. Il va l'amener à prendre conscience que son problème, eh bien, c'est bien l'incrédulité. Pour
ne pas le laisser dans son incrédulité, mais pour l'amener à croire. Mais pour l'amener à croire, il faut d'abord qu'il prenne conscience que son problème, c'est l'incrédulité. Avant de l'amener plus loin, il faut d'abord lui faire prendre conscience de son problème. Et c'est un principe aussi pour nous, qu'on s'adresse à des frères et sœurs ou à des non-chrétiens, plutôt que d'amener une solution toute faite. Vous savez, quand on évangélise, très souvent on dit « Jésus t'aime », mais on n'a pas pris conscience. C'est vrai, Jésus t'aime, mais est-ce que la personne a pris conscience de son problème, qui est le péché ? Et alors, par un jeu de questions, on peut effectivement arriver à prendre conscience, à faire prendre conscience à l'autre de son problème. C'est un principe. Plutôt que d'amener une réponse toute faite, il faut d'abord faire prendre conscience à la personne de son problème, de son besoin. Et effectivement, Jésus, il a tapé dans le mille. Hein. La réponse du Père, elle est révélatrice. Il doute que Jésus peut délivrer son fils. Verset 22. « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Ce à quoi Jésus lui a répondu, verset 23, « Si tu peux. » Tout est possible à celui qui croit. Jésus lui a renvoyé, en plein, comme dans un miroir, il lui a renvoyé sa réponse. C'est le Père qui a dit. Il a dit à Jésus « Si tu peux. » Par cette simple phrase, il a manifesté son incrédulité. Il a entendu de sa propre bouche qu'il ne croit pas. Et là, eh bien, Jésus va pouvoir faire quelque chose. Il accueille cet incrédule. Le Père s'en veut clairement de ne pas avoir assez de foi pour guérir son fils. Alors, il est mal, le Père. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va supplier Jésus. Il va prier Jésus. C'est vraiment un cri qu'il adresse à Jésus. Verset 24. « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Qu'est-ce qu'il fait ? Il reconnaît qu'il manque de foi devant Jésus. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il demande à Jésus de lui donner la foi, de venir au secours de son incrédulité. Vous avez remarqué comment il passe de « viens à notre secours » ensuite il dit « viens au secours de mon incrédulité ». Alors voilà. Jésus a réussi à mettre le doigt sur le problème du Père qui a reconnu son problème. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a supplié Jésus de lui venir à son secours. Maintenant, les disciples, clairement, ils ont aussi manqué de foi. Parce que plus tard, eh bien, ils ont posé la question en privé à Jésus du pourquoi de leur échec. Et que leur dit Jésus au verset 29 ? Il leur dit que cette espèce de démon ne sort que par la prière, verset 29. Et là, c'est très clair. Pas de prière, pas de délivrance. Et la prière, c'est un indicateur de notre foi. C'est un témoin de notre foi. Pas de foi, pas de prière. Les deux sont étroitement liés. Et vous ? Et nous ? Où en est votre foi ? Où en est notre foi ? La réponse, dans votre vie de prière. C'est votre vie de prière qui va témoigner de l'état de votre foi. Si vous lisez la Bible quotidiennement, chez vous, tranquillement, Alléluia, Amen, c'est très bien. Dieu vous parle par sa parole. Et il aimerait aussi vous entendre. Il aimerait aussi vous entendre dans la prière comme un père aime entendre la voix de ses enfants, lui parler. Comme un père a plaisir à répondre à ses enfants. Alors peut-être que c'est une vraie lutte pour vous, vous n'arrivez pas à prier. Et peut-être vous aspirez à avoir une meilleure vie de prière, mais vous désespérez parce que vous n'y arrivez tout simplement pas. Vous manquez de motivation. Vous avez votre travail. Et vous savez, le mercredi soir, on a notre réunion de prière ici, à 19h. Et en voyant l'assistance à notre réunion de prière... Eh bien, je crois que plus d'une personne est dans ce cas. C'est difficile. On est parfois trois, parfois quatre, avec Dorothée qui vient de plus loin. Mais j'ai une bonne nouvelle. Si vous n'arrivez pas à prier parce que vous manquez de foi, Jésus ne vous rejette pas. Il vous accueille quand même, malgré votre incrédulité. Et ce récit en est la preuve, Jésus a accueilli le Père incrédule. Dans notre église, nous avons une vie d'église, nous avons des projets. Et parfois on se réunit, le conseil. On peut se réunir plus souvent, on peut créer plus de comités de réflexion.
à une ou deux églises avec l'église de Gramat, tout ça pour faire avancer l'église. Mais la première priorité doit rester la prière. Avant toute réunion de travail, ça doit être la prière. Du temps des disciples, Jésus ne pouvait pas être présent physiquement. Il était physiquement présent avec eux. Aujourd'hui, Jésus, nous ne le voyons pas. Mais nous savons, parce que la Bible nous le dit, que Jésus est là où, où sont assemblés deux ou trois en son nom. Alors même si parfois on n'est pas nombreux, Jésus est là. Il est ressuscité. Une des raisons de nous assembler ensemble, c'est de prier en son nom. Voulons-nous voir notre Église grandir ? Il faut le demander au Seigneur et croire qu'il peut le faire. C'est son Église, c'est son œuvre. Nous voulons plus d'ouvriers ? Demandons-le au Seigneur, c'est sa volonté. Il veut envoyer plus d'ouvriers. Nous voulons une vie de prière plus conséquente ? Il faut aussi le demander au Seigneur, parce qu'il veut qu'on prie. Voulons-nous plus de foi pour prier ? Ce que parfois on manque, eh bien demandons-le au Seigneur comme ce Père. Et Jésus a répondu, il veut donner la foi comme il a donné la foi à ce Père, incrédule. Et demander au Seigneur la foi pour prier, c'est déjà un acte de foi, tout simplement. Et Jésus répondra, même si c'est une petite foi, il répondra comme il a répondu à ce Père, avec toujours autant de compassion, parce qu'il a eu compassion de ce Père qui souffrait tellement de son Fils, de voir son Fils dans cet état. Alors Jésus répond à sa prière. Jésus ordonne au démon, verset 25, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Suite à quoi, le démon agita l'enfant avec violence, avant finalement de sortir de lui, et de sortir de lui définitivement. Quand Jésus délivre, c'est définitif. L'enfant, c'est le démon qui a donné des convictions à l'enfant. Après de violentes convulsions, l'enfant devint comme mort. Les gens croyaient qu'il était mort. Qu'est-ce que voulait le démon ? Il voulait le tuer. Alors est-ce que le démon avait réussi ? Non, bien sûr que non. Le démon voulait jeter l'enfant, l'esprit sourd et muet, voulait le jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir, verset 22. Le démon a-t-il gagné ? Non, l'enfant n'était pas mort. Sans voir des démons partout, je vais y revenir. Combien de pères sont dans la détresse, voyant leurs enfants se perdre et brûler leur vie, ou se noyer dans ce monde loin de Dieu, voyant leurs enfants qui sont sourds à la parole de Dieu. Maman, on sait déjà, papa, on sait déjà. Des enfants qui sont parfois violents, qui sont incapables de mettre des mots sur leur mal-être, parce qu'ils n'arrivent pas à verbaliser ce qu'ils ont. Il y a un père qui a vu son fils qui est passé par l'épreuve du feu la plus terrible, celle de la croix. C'est le Père, bien sûr. Le Père de Jésus. Ça a été une souffrance pour lui. La croix a été une souffrance pour Jésus, mais aussi, certainement, aussi pour le Père, bien sûr. Jésus a accepté de passer par l'épreuve la plus terrible qui soit, celle de la croix. L'épreuve du feu la plus terrible, celle de la croix. Et puis, le Fils a été rendu au Père. Jésus a été rendu à son Père. Alors, les pères qui désespèrent de voir leurs enfants souffrir, ils peuvent croire qu'il est possible que leurs enfants viennent ou reviennent à Dieu. Et l'Ancien Testament se termine par ce verset, magnifique promesse, Malachi 4, verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. L'enfant délivré n'était pas mort. Jésus l'a pris par la main, il l'a fait se lever. Il a fait se lever, et le mot se lever, c'est le même mot qu'on traduit par ressusciter. Jésus est ressuscité d'entre les morts pour nous relever, pour nous faire marcher avec lui, lorsqu'on l'a laissé nous délivrer auparavant de nos péchés. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'on le croit ? Est-ce qu'on le croit non seulement pour nous, mais aussi pour nos proches que nous aimons, que nous aimerions tellement voir venir au Seigneur ? Rien n'est impossible à Dieu. Sans voir des démons partout, le diable est quand même bien actif. Et sa ruse principale, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Les symptômes décrits dans cet enfant possédé, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appellerait aujourd'hui, scientifiquement parlant, à une crise d'épilepsie. Ce sont tout à fait les symptômes. Jeté par terre, écume,
l'enfant est humide, il devient raide. Une crise d'épilepsie. Et il y a des cas de crise d'épilepsie. On était au camp de famille avant-hier, donc j'ai pu échanger avec une sœur en Christ. Elle est tunisienne, et auparavant elle était dans l'islam. Elle était convaincue, c'était une musulmane convaincue. Et puis vraiment le Seigneur l'a appelée. Elle-même ne peut pas s'expliquer comment ça s'est fait. De l'état où elle était, le Seigneur est venu la chercher. Et sa foi était évidente. La foi d'une jeune chrétienne. Quelqu'un qui est fraîchement converti, ça fait plaisir. Moi qui ai des années de vie chrétienne derrière moi, ça m'a fait du bien de voir sa ferveur, de voir sa piété. Sa sœur était épileptique. Sa sœur a accepté qu'elle prie pour elle. Alors ça s'est passé à distance, par écran interposé. Sa sœur, donc cette sœur tunisienne, a prié pour sa sœur à distance. Elle a prié, elle m'a dit, dans le nom puissant de Jésus. Elle a vu sa sœur à distance se débattre. Elle avait des mouvements désordonnés pour finalement être délivrée. Sa sœur est devenue chrétienne. Et par enchaînement, sa mère est aussi devenue chrétienne. Seul le père est un imam, lui, c'était pas encore le moment. Et deux frères, on peut vraiment prier pour eux. Ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, il le fait encore. Jésus ne rejette pas les incrédules. Ceux qui croient que... Non, qui ne croient pas que ça arrive encore aujourd'hui. Jésus ne rejette pas les incrédules et il accueille ceux qui ne veulent pas le rester. Amen. Je continuerai après. Voilà, donc Jésus accueille les incrédules. Et on va voir que Jésus accueille aussi les petits et les enfants. Et je poursuis ma lecture. Donc, on s'est arrêté au verset 29. Je reprends à partir du verset 30 du chapitre 9 de l'évangile de Marc. Je vais prier. Seigneur, merci de nous rendre attentifs encore à ta parole. Merci de la... Je veux vraiment te demander qu'elle agisse dans nos vies, Seigneur. Et merci parce que oui, tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Amen. En Jésus. Alors, mon deuxième point, c'est la foi en Jésus se manifeste par l'accueil des petits. Donc, verset 30. Marc 9, verset 30. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et leur disait « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. » Ils le feront mourir et 3 jours après, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de le questionner. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils s'étaient entretenus sur la question de savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit à plat les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit ne me reçoit pas moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Amen. » Jusqu'ici, pour le moment, la parole de Dieu. Donc voilà, après cette délivrance donc de cet enfant démoniaque, délivrance, voilà Jésus et ses disciples qui repartent en direction de Jérusalem. Le ministère de Jésus à ce stade-là, le ministère public en Galilée était pratiquement achevé. Et Jésus se dirige vers Jérusalem où il allait mourir pour nous. Et là, eh bien, il va encore instruire ses disciples. Il va instruire ses disciples encore, parce que c'est la troisième fois. Il leur a annoncé la première fois dans l'évangile précédent. Il va les instruire sur sa mort et sa résurrection à venir, verset 31. C'est donc la troisième fois que Jésus leur dit. Manifestement, ils n'ont toujours pas compris. Parce qu'une fois à la maison à Capernaum, le Seigneur leur demande de quoi ils discutaient entre eux en chemin. Bien sûr, là encore, Jésus savait de quoi ils discutaient. Mais comme pour le Père, Jésus veut les mettre en face de leur problème. Un problème qui, cette fois, c'est pas un problème d'incrédulité, c'est un problème d'ego. un problème d'ego. Et Jésus va les mettre en face de leur problème. Jésus vient de leur annoncer ses souffrances à venir, et certainement que Jésus, tout fils de Dieu qu'il est, il attendait un peu de soutien de la part de ses disciples, un peu de compassion. Eh bien, au lieu d'interroger Jésus sur ce qu'il n'avait pas compris, à savoir la résurrection, il discutait. Il discutait sur quoi ? C'est le verbe veut même dire disputer, hein. Enfin, à moindre niveau. Il était, mais avant tout, c'est discuter. Il discutait sur qui est le plus grand entre eux. Et bien sûr qu'ils discutaient entre eux, pas devant Jésus. Et on comprend pourquoi ils avaient honte d'avouer à Jésus sur quoi ils discutaient. Mais Jésus le savait. Jésus le savait, puisqu'il dit, il est le Fils de Dieu, il savait tout. Il sait tout. Les disciples, ils calculaient leur chance d'être classés parmi les meilleurs. Et on n'oublie pas que, très peu de temps auparavant, trois d'entre eux, Pierre, Jacques et Jean, ont assisté, ils ont été choisis pour assister à la transfiguration où Jésus leur est apparu en gloire. Alors, eh bien, ça a dû susciter entre eux une discussion. Alors toi, tu as été témoin de Jésus, Jésus en gloire. Et ils discutaient qui serait le plus grand entre eux, alors que Jésus attendait un peu de compassion. Les choix de Jésus, Jésus avait choisi Pierre, Jacques et Jean, non pas Pierre, pas Jésus ne les avait pas choisis en fonction de leur performance, mais en fonction de son choix à lui. Il choisit, point. Ça ne dépendait pas d'eux, ça dépendait du choix de Jésus. Tu veux être le plus grand ? Eh bien, prends ta croix et rends-toi volontairement esclave de tous. Voilà le message de Jésus. Voilà un bon remède pour ne pas nous comparer entre nous. Souvent, on se compare, mais est-ce qu'il est plus doué que moi ? Moi, je suis plus doué que lui ou qu'elle. Mais c'est la chose à ne pas faire. Et Jésus veut mettre vraiment les choses à leur place. Jésus accueille tout le monde. Il accueille les incrédules, on l'a vu. Il accueille aussi les petits. Et pour illustrer cela, il prend un petit enfant. Il s'est assis, Jésus, il prend un petit enfant. Il va se placer au milieu des disciples. Et il va le prendre dans ses bras. Le verbe veut dire aussi embrasser. Il va le prendre dans ses bras. Tu veux te comparer pour savoir si tu es le plus grand ? Eh bien, compare-toi à ce petit enfant. Un enfant, il se reçoit. Il ne se mérite pas. Un enfant, il n'a aucune prétention. Et Jésus, lui qui est le plus grand, dit qu'il se reçoit. Il ne se mérite pas. Et il se reçoit comment ? Il se reçoit comme on reçoit un petit enfant, verset 37. Et qui reçoit Jésus ? Reçoit le Père, pas moi. Reçoit le Père qui a envoyé son Fils. Le Père nous a envoyé Jésus, pas pour qu'on le mérite, qu'on fasse des prouesses pour notre gloire, mais pour qu'on le reçoive dans l'humilité. Pas de place pour une religiosité qui rendrait le ciel accessible aux plus doués, aux plus religieux, aux plus spirituels, on dirait. Jésus accueille même les plus petits. Et les enfants font partie des plus petits. Le mot petit, ça désigne des enfants, mais pas seulement. Ceux qui sont considérés comme petits dans ce monde. Alors, puisque Jésus a pris l'exemple d'un enfant, voilà un encouragement. Un encouragement pour les parents, mais pas seulement, pour toute l'Église, à donner à l'enseignement des enfants sa juste place. Alors, c'est une parenthèse qui a sa place. L'enseignement des enfants, il est d'abord, la première mission est confiée aux parents. L'Église est là en soutien pour soutenir les parents. Et l'enseignement des enfants, c'est pas une garderie. Vraiment, enlevons ce mot de notre tête. Qui reçoit un enfant reçoit Jésus. L'enseignement des enfants, c'est un moment privilégié pour faire connaître aux enfants celui qui les aime, qui a donné sa vie pour eux, Jésus. Jésus veut les accueillir pour les sauver. Je continue ma lecture à partir du verset 38. Donc voilà, Jésus a voulu apprendre l'humilité à ses disciples, à nous aussi, bien sûr. Verset 38. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom et qui ne nous suit pas. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Jésus dit, « Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui fasse un miracle en mon nom et puisse aussitôt après parler mal de moi. En effet, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. »
Car quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom parce que vous êtes au Christ, en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour l'un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette autour du cou une meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas, où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas, et où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous ? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Passage qui peut sembler dur, qui parle un peu plus clairement de l'enfer. Mais pas que de l'enfer. Mon troisième point, après avoir vu le premier, Jésus, la foi en Jésus accueille les incrédules. Deuxième point, la foi en Jésus accueille les petits. Mon troisième point, la foi en Jésus se manifeste par l'accueil des autres croyants. Alors peut-être ça peut vous sembler évident, mais pensons-nous un peu plus dans ce texte. La foi en Jésus se manifeste par l'accueil des autres croyants. Les disciples, croyant bien faire, voulait empêcher quelqu'un qui n'est pas de leur groupe, quelqu'un de chasser des démons au nom de leur Seigneur. Ici, pas de problème de fausse doctrine. Pas de problème de péché qui est en cause. C'est pas ça le problème. Le seul tort de cet homme, c'était de ne pas faire partie de leur groupe, de ne pas s'être joint à leur groupe. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Ne l'en empêchez pas, a dit Jésus. S'il a assez de foi pour chasser les démons au nom de Jésus, il travaille pour Jésus. Pour Jésus et pas contre lui. Voilà un avertissement. Un avertissement pour tout croyant, pour nous tous, à ne pas être sectaire. Sans pour autant accepter tout et n'importe quoi. Il ne faut pas tomber non plus dans l'autre extrême. Au nom de la tolérance, soi-disant. Ici, cet autre chrétien, qui n'était pas du groupe des disciples, chassait des démons. Donc c'était clairement une bonne œuvre. Une bonne œuvre. Mais là, on se rappelle que les disciples n'ont pas réussi à chasser un démon. Le démon qui était dans l'enfant. Alors, une des causes du sectarisme, du rejet de l'autre, même qui se dit chrétien, est clairement mise en évidence. C'est quoi ? C'est la jalousie. C'est la jalousie envers quelqu'un qui a réussi ce que eux n'ont pas réussi à faire précédemment, à savoir chasser le démon. Eux avaient échoué. Alors, Jésus va mettre tout le monde à sa place pour nous garder justement de toute jalousie, pour nous garder de tout sectarisme, pour nous garder de tout esprit de clocher. Et c'est facile, hein, d'y tomber. Hein. Je sais que je dois y faire attention. Pour nous garder de cela, Jésus dit que quelqu'un qui donnera à boire un simple verre d'eau en son nom à un chrétien, ne perdra pas sa récompense. Donner à boire un verre d'eau à un chrétien, c'est évidemment moins spectaculaire que de chasser un démon. On ne voit pas des exorcismes, ça existe. On assiste, je ne sais pas si vous avez assisté à ça, moi pas, mais donner à boire à un verre d'eau est aussi important que de chasser un démon et ne perdra pas sa récompense. Jésus dit qu'il ne perdra pas sa récompense, celui qui donne un verre d'eau à un de ses disciples. Les deux actions ont du prix pour le Seigneur si elles sont faites pour sa gloire, pour sa gloire. Alors, je ne sais pas comment vous réagissez quand vous croisez un SDF dans la rue qui fait la manche. Et j'aime pas particulièrement le donner de l'argent, hein, chacun est libre. Moi, je préfère leur donner un pain ou quelque chose de quoi manger. Mais souvent, c'est pas juste, tiens, voilà de quoi manger. C'est, voilà, au nom de Jésus, je te donne ça. C'est pas en mon nom que je te le fais. C'est parce que Jésus s'intéresse aux pauvres. Et pour que lui, bien sûr, se tourne envers le Seigneur. Oui, non seulement pour Jésus, toute bonté témoignée au plus petit, à un enfant, ou au plus, celui qui est très peu considéré, pour Jésus, c'est un acte de grandeur. non seulement un acte témoigné à un petit, mais aussi une petite action, comme donner à boire à un verre d'eau. Jésus accueille les petits et il accueille les petits services faits en son nom. Peu importe par qui, même si la personne ne fréquente pas notre église, même si la personne ne fréquente pas l'église, même si la personne est d'une autre dénomination, la personne peut être aussi non chrétienne. Jésus le voit. Quelqu'un qui, même s'il le fait sans connaître encore le Seigneur, ne doutons pas que le Seigneur saura se révéler à ces personnes. Eh bien, puisque Jésus accueille les petits et les petits services, à plus forte raison, nous devrions aussi nous accueillir sans nous comparer les uns aux autres. Nous accueillir dans nos rapports les uns avec les autres sans comparer notre service pour Christ. Le tien, il est différent du mien et il a autant de valeur quand c'est fait pour la gloire de Dieu. Vous vous rappelez en 2020, mars 2020, le monde a été mis à l'épreuve, mais pas seulement. L'Église tout entière a été mise à l'épreuve avec la pandémie du Covid-19. Dans une même Église, un chrétien pouvait être farouchement pour la vaccination, au point de vouloir imposer un pass vaccinal. Je l'ai entendu. Tandis qu'un autre pouvait être farouchement contre la vaccination. Alors, il y avait ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, dans la même Église. Le piège, c'est que les uns se montrent contre les autres. Et je crois vraiment que c'était un test. Comment allons-nous considérer celui qui a une autre conviction que la mienne, sans remettre en cause l'Évangile? Le piège était que les uns se tournent contre les autres et voulaient imposer la vaccination ou la non-vaccination aux autres. Alors que les deux appartiennent à Christ. Christ qui a dit, verset 40, « En effet, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Il ne s'agit pas d'être contre les uns contre les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus a dit aussi ce qui semble être l'inverse. Dans l'évangile de Matthieu, je vous le cite, Matthieu 12, verset 30, il a dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne semble pas avec moi disperse. » Jésus a dit les deux. Mais en regardant bien, les deux affirmations ne s'opposent pas, elles se complètent. Chez Matthieu, quiconque ne reconnaît pas la personne de Jésus, Fils de Dieu, Messie, le plus grand, le plus humble, capable de chasser les démons, il est contre lui et il disperse. Chez Marc, là, il n'est pas question de la personne de Jésus, il est question des œuvres des croyants. Ça concerne la façon dont nous servons le Seigneur. Et la façon dont nous servons le Seigneur, elle peut différer d'un chrétien à un autre, d'une église à une autre. Au verset 39, Jésus a dit « Car il n'est personne qui fasse un miracle en mon nom et puisse aussitôt après parler mal de moi. » C'est pas possible. Quiconque n'est pas contre le Seigneur dans son service pour lui est donc pour le Seigneur et donc contre Satan. Quiconque n'est pas contre le Seigneur, ne le voyons donc pas comme un ennemi. Les copyrights sont au ciel. On a le droit de copier les bonnes idées d'une église à l'autre ou d'une œuvre à l'autre pour la gloire de Dieu, pour son royaume. Et la suite du texte, eh bien, c'est une sérieuse mise en garde contre quiconque ferait tomber par ses paroles ou ses actes un de ces petits qui croient en Jésus. Un de ces petits. Et là, ce n'est pas seulement les enfants. C'est quelqu'un qui n'est pas considéré spécialement. Ça peut être les enfants aussi, bien sûr. C'est un avertissement. Et probablement, dans ce récit, que les disciples avaient été une pierre d'achoppement envers le frère qui n'était pas de leur cercle, qui essayait de chasser les démons, en voulant l'en empêcher. Cette mise en garde s'adresse donc à des chrétiens. Jésus s'adresse à ses disciples. Cette mise en garde s'adresse à des chrétiens qui feraient tomber d'autres chrétiens. Ça s'adresse aussi à des non-chrétiens. Jésus est radical. Mieux vaut se couper la main, ou le pied, ou l'œil, s'arracher l'œil, plutôt que d'être une occasion de chute pour un croyant. La main, ça évoque nos actions, ce que nous pouvons faire. Le pied, ça évoque notre marche. L'œil, ça évoque la convoitise du cœur. Je donnerai juste une illustration pour l'œil. Et clairement, il ne s'agit pas de se mutiler. L'image est là pour montrer la gravité d'être une occasion de chute pour un croyant. Si vous êtes chrétien, la première personne sur qui il faut veiller pour ne pas qu'il tombe, c'est vous-même. C'est vous-même, avant les autres. Nous avons besoin de discipline personnelle quotidienne. Ce qui veut dire qu'on a d'abord prioritairement besoin d'être dur envers nous-mêmes, avant d'être dur et strict envers les autres. C'est avant tout, c'est envers soi-même. Et parfois, vous avez remarqué, c'est le contraire. On est tolérant, on est charitable envers soi-même, mais on peut être très dur avec les autres. Comme l'ont été les disciples sectaires. Et c'est... Alors, il ne se disait pas chrétien, mais j'ai trouvé ça intéressant. Parce que même s'il est non-chrétien, c'est encore plus fort. C'était un accro au jeu d'argent sur Internet. Il a dépensé beaucoup d'argent. Et il était conscient de son problème. Et il avait dit, je crois que c'était, je ne sais plus où je l'ai entendu à la radio, je l'ai entendu clairement, il avait dit qu'il a demandé à son fournisseur d'accès à Internet de lui interdire l'accès à ses sites de jeux d'argent. Voilà une façon de se couper, de s'arracher l'œil. Parce que lui n'y arrivait pas. Il a demandé à son fournisseur d'accès de lui interdire l'accès aux sites de jeux d'argent pour se prémunir. Car tout homme sera salé de feu, nous dit Jésus, verset 49. Tout homme sera salé de feu. Tout homme, ça veut dire aussi bien les croyants que les non-croyants. Pour un non-croyant, salé de feu. L'enfer, le feu représente l'enfer. Clairement, l'enfer, vous avez vu combien de fois il répétait l'expression, 5 fois dans 5 versets, versets 43 à 48. C'est une réalité. Jésus est venu justement pour nous sauver de l'enfer. La loi de Moïse, donc c'est Lévitique chapitre 2 verset 13, demandait à ce que tout sacrifice qu'on offrait au Seigneur soit salé, de sel. Le sel, c'était l'emblème de l'alliance avec Dieu. Tout sacrifice devait être salé de sel. Et vous savez comme moi, le sel empêche le pourrissement et conserve pour les aliments. Jésus est notre sacrifice suprême. Jésus, il a été salé à l'épreuve de la croix pour éviter à quiconque croit en lui le pourrissement et l'enfer. Jésus, par son sacrifice, il a brûlé tous nos péchés quand nous croyons en lui. Pour le non-croyant, Jésus a donné sa vie pour nous, sauver de l'enfer. Pour un croyant, tout homme sera salé de feu. Eh bien, la vie du chrétien, notre vie devrait être un sacrifice continuel à Dieu. Un sacrifice salé de feu, assaisonné de sel dans notre vie personnelle, en combattant de toutes nos forces le péché, parce que sinon le risque c'est de devenir insipide. Et le sel, quand il n'a plus de goût, il ne sert plus à rien. Il est jeté au feu. Il ne suffit pas de bien commencer sa vie chrétienne, il faut aussi persévérer. Il faut rechercher activement le plan de Dieu pour notre vie. Est-ce que tu crois que Dieu a un plan précis pour ta vie, à toi personnellement? Il te le faut chercher. Il te le faut chercher. Et nous examiner pour voir si nous sommes dans le plan de Dieu. Le feu, pour un croyant, ce sont les épreuves que Dieu envoie ou que Dieu permet sur nos vies. Il s'agit d'un feu purificateur pour évaluer nos œuvres. Nos œuvres qui seront évaluées au tribunal de Christ. Un feu purificateur sans pour autant que nous perdions notre salut. Quand Jésus sauve, c'est complètement. Nos œuvres peuvent être éprouvées par le feu. Et puis, bien sûr, le sel, ça donne du goût aux aliments. Jésus dit, ayez du sel en vous-même. Et le sel, ça touche aussi nos paroles. Je lirai Colossiens chapitre 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est aussi dans nos paroles que nous manifestons. Notre parole avec notre conjoint, avec les non-chrétiens, avec nos frères et sœurs. Est-ce que nous avons des paroles de grâce assaisonnées de sel pour répondre à chacun? Si on se sale soi-même, c'est ça, c'est à chacun. Si on se sale soi-même, on sera gardé de l'orgueil, on sera gardé des rivalités, on sera humble dans notre service pour autrui, on n'aura pas à se reprendre les uns les autres. Et par voie de conséquence, puisque Jésus nous dit « soyez en paix », eh bien on sera en paix. On sera en paix les uns avec les autres. On sera en paix les uns avec les autres dans l'Église et on sera en paix avec soi-même. On sera en bénédiction dans ce monde qui verra la différence. Voilà. Ça, c'est le standard que le Seigneur veut pour nous. Peut-être vous vous dites, mais ça serait, c'est trop beau, c'est impossible. Humainement, ça paraît impossible. Et quand on regarde les disciples, les apôtres, il y a de quoi désespérer. Il y a de quoi désespérer. Trois des apôtres, Pierre, Jacques et Jean, venaient de voir Jésus en gloire, transfiguré. Et juste après, ils ont enchaîné échec après échec, les trois et les autres qui les attendaient. Ils ont échoué à chasser un démon par manque de foi et de prière. Ils ont échoué de par leur ego, ils se sont querellés pour savoir qui serait le plus grand. Et ils ont échoué par sectarisme, en rejetant quelqu'un d'autre qui chassait les démons au nom de Jésus. Triple échec juste après avoir vu Jésus en gloire, pour certains. Bien sûr, nous ne sommes pas comme ça. Non. Eux, c'était les apôtres. Nous ne sommes pas comme ça. Attendez un peu. Ils ont quand même fréquenté Jésus en chair pendant 3 ans. Est-ce que toi, tu as fréquenté Jésus en chair pendant 3 ans? Moi, pas. Quand même, je crois que là, on a besoin de s'examiner. J'en ai besoin. On en a besoin. Examinons-nous, honnêtement. Honnêtement. Mais il y a de l'espoir. Jésus a dit au Père, il nous le dit aussi à nous, verset 23, « Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. » Le Seigneur a-t-il rejeté ses disciples, ses apôtres? Non, bien sûr que non. Si nous sommes là, c'est parce qu'ils ont continué le travail après. Jésus les a accueillis comme il accueille les incrédules, comme il accueille les petits, comme il accueille quiconque n'est pas contre lui, comme il t'accueille, comme il nous a accueillis. Et parce que Jésus nous a accueillis, nous pouvons à notre tour accueillir l'autre, tout différent qu'il est. Et peut-être tu as du mal à t'accueillir toi-même en voyant ta vie. Tu peux aussi t'accueillir parce que Jésus t'accueille. Jésus t'accueille si tu crois en lui. Même si tu crois un petit peu avec un peu de foi, il t'accueille, pas à cause de tes mérites, il t'accueille. Et si tu as du mal à t'accepter parce que tu regardes à toi-même, à tes échecs, que tu sois chrétien ou pas, Jésus t'accepte, il t'accueille si tu crois en lui. Peut-être que tu as vécu du rejet dans ta vie. Si tu te sens rejeté par les autres, chrétien ou pas, Jésus ne te rejette pas. Il t'accueille si tu crois en lui. Et peut-être que tu as du mal à accepter d'autres chrétiens à cause de leurs échecs, de leurs défauts. Et vous savez, j'en ai entendu des critiques. Mais le Seigneur nous accueille. Des critiques sur d'autres qui font différemment. Et ce que je vois, les personnes qui critiquent le plus, je sais que je dois prier pour elles. J'en ai vu, on en a vu. Comme on a besoin que vous priez pour nous. Les personnes qui critiquent le plus, très souvent, elles sont repliées sur elles-mêmes. Elles sont repliées sur elles-mêmes. Et elles en souffrent. Si tu as du mal à accepter d'autres chrétiens à cause de leurs échecs ou de leurs défauts, ou juste parce qu'ils sont différents, eh bien, nous rappeler que Jésus les a accueillis comme il nous a accueillis va nous aider à les accueillir. Je crois. Donc j'accueille ceux qui croient. Et j'essaye de ne pas être une occasion de chute pour eux. Je fais tous mes efforts. Si tu ne t'en sens pas capable, mais que tu crois, même juste un peu, alors prie le Seigneur. Et il te rendra capable. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci, parce que quand on regarde comment tu as été patient, Seigneur, avec tes apôtres, avec tes disciples. Et comment tu ne leur as pas lâché la main, et comment tu les as amenés là où tu as voulu. Merci, Seigneur, pour ton amour qui nous dépasse, pour ta patience. Aide-nous, Seigneur, vraiment à te voir. Nous pouvons venir à toi, Seigneur. Tu as enlevé la séparation qu'avait causé notre péché en portant la punition, en portant le poids de nos fautes à la croix. Seigneur, nous pouvons venir à toi à tout moment, même si parfois nous pouvons parfois désespérer de nous-mêmes, Seigneur, ou peut-être être trop imbus, trop fiers de nous-mêmes. Mais dans tous les cas, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, merci de ce que tu finiras, l'œuvre que tu as commencée en nous. Et donne-nous, Seigneur, ton regard sur nous-mêmes et aussi sur les autres de notre famille, frères et sœurs, et les autres qui ne sont pas de nos assemblées. Donne-nous de les voir, Seigneur, avec tes yeux, avec ton cœur, avec ta patience. Donne-nous de voir aussi les non-croyants, tous ceux que nous croisons dans la rue qui ne te connaissent pas. Donne-nous de les voir avec tes yeux, avec ta compassion. Qu'elle soit plus forte que la crainte qu'on peut avoir, Seigneur, de parler de toi. La compassion envers quelqu'un qui se perd, Seigneur. Donne-nous des paroles, Seigneur, pour tout ce que tu mets sur notre route, Seigneur. Et voilà, quand tu nous demandes de témoigner de toi, Seigneur. Merci. Oui, Seigneur, tu dis l'amour parfait chasse la crainte. Aide-nous, Seigneur. Et surtout, on a besoin de foi, Seigneur. Parce que ce que tu as fait, lorsque tu étais en chair, tu peux le faire. Tu peux faire. Tu as dit, on fera des choses bien plus grandes encore. Alors, Seigneur, aide-nous à regarder à toi, à te faire confiance, à manifester notre foi, Seigneur. Et merci pour les délivrances que tu opères, que tu vas encore opérer, Seigneur. Pour ceux de nos familles qui ne sont pas encore à toi, pour ceux de l'extérieur, Seigneur, merci parce que tu es puissant, tu es tout puissant. C'est par le puissant nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen.